Bienvenue, bienvenue au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue ici et maintenant. Bienvenue ici, dans ce lieu, l'Église évangélique de Meyrin. Bienvenue maintenant dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire personnelle, le chemin parcouru. Sois bienvenu, accueilli, et que ce moment mis à part pour Dieu, ici et maintenant, te soit en bénédiction. Seigneur Jésus, toi, le véritable maître de nos vies, viens à notre rendez-vous.
Nous attendons ta parole, nous désirons ta présence, car tu es l'eau qui nous rafraîchit, tu es le pain qui ranime nos forces.
Les uns sont en vacances, l'esprit tranquille, les autres s'appliquent à remplir les exigences de leur métier, d'autres encore sont retraités.
Et tous, nous venons chercher de quoi continuer la marche de nos vies, de quoi assurer nos responsabilités, de quoi être des humains authentiques et vrais.
Tu nous envoies dans le monde d'aujourd'hui, un monde encore une fois perturbé, troublé.
Un monde aux horizons qui s'assombrissent, un monde aux enjeux compliqués.
Garde-nous fidèles, attentifs à toi, car tu viens bientôt.
Garde-nous éveillés, attentifs à nos frères humains, car tu es dans le plus petit d'entre eux.
Amen. Nous allons avoir un moment de louange.
Pour ce temps de... Oui, c'est bon. Pour ce temps de louange, nous avons choisi des chants qui évoquent un petit peu l'idée de justice, qui en lien avec le message que Philippe Golas nous apportera tout à l'heure. Justice qui est le caractère de Dieu même, de ce Dieu qui fait justice aux humbles. Aussi cette justice, nous ne pouvons pas avoir par nous-mêmes, mais que nous recevons en Christ. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Puis aussi cette justice qui est un appel à vivre. Une justice aussi bien sur le plan personnel que sur le plan collectif. Bénissons Dieu. Notre roi. Proposons de chanter ce chant, le premier verset, puis le deuxième verset, puis une reprise avec les Alléluia et le deuxième verset ensemble, comme vous le sentirez. Est mon berger, qui nous parle de cette justice de Dieu qui est présente même dans les moments difficiles où peut-être on ne la voit plus.
Dieu Père,
Dieu Fils,
Dieu Saint-Esprit,
que tu ouvres notre cœur,
que tu ouvres notre entendement,
que tu animes notre esprit,
pour écouter ta parole,
pour accueillir sa signification,
pour la garder dans nos cœurs.
Amen. Amen. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira auprès d'un homme d'Adoulam nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Il la prit pour femme et alla avec elle. Elle fut enceinte et mit au monde un fils qu'il appela du nom d'Er. Il fut encore enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela du nom d'Onan. Une fois encore, elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Shéla. Judas était à Kézib quand elle accoucha. Judas prit pour Er son premier-né une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, déplut au Seigneur. Et le Seigneur le fit mourir. Alors Judas dit à Onan, « Va avec la femme de ton frère, remplis envers elle ton devoir de beau-frère et suscite une descendance à ton frère. » Onan savait que cette descendance ne lui appartiendrait pas. Lorsqu'il allait avec la femme de son frère, il laissait sa semence se perdre par terre afin de ne pas donner de descendance à son frère. Ce qu'il faisait déplut au Seigneur qui le fit aussi mourir. Alors Juda dit à Tamar, sa belle-fille, « Puisque tu es veuve, reste chez ton père jusqu'à ce que Shéla, mon fils, soit grand. » Car il se disait, « Celui-là aussi va mourir comme ses frères. » Tamar s'en alla et resta chez son père. Bien des jours s'écoulèrent, et la femme de Juda, la fille de Shua, mourut. Lorsque Juda se fut consolé, il monta à Timna, chez ceux qui tondaient son petit bétail, avec son ami Ira, la Doulamite. On en informa Tamar en disant, « Ton beau-frère monte à Timna pour tondre son petit bétail. » Alors elle retira ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile dont elle s'enveloppa, et s'assit à l'entrée d'Enaïm, sur le chemin de Timna, car elle avait vu que Shéla était devenu grand et qu'elle ne lui avait pas été donnée pour femme.
Juda la vit et la prit pour une prostituée parce qu'elle avait le visage couvert. Il l'aborda sur le chemin et dit, « Laisse-moi donc aller avec toi, je te prie. » Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, « Que vas-tu me donner pour aller avec moi ?» Il répondit, « Je t'enverrai en chevreau. » Elle dit, « Alors donne-moi un gage, jusqu'à ce que tu l'envoies. » Il répondit, « Quel gage te donnerai-je » Elle dit, « Ton seau, ton cordeau et le bâton que tu as à la main. » Il les lui donna. Puis il alla avec elle, et elle fut enceinte de lui. Elle s'en alla, elle retira son voile et remit ses habits de veuve. Juda envoya son ami Adoulamite chez la femme pour lui apporter le chevreau et reprendre le gage. Mais il ne la trouva pas. Il demanda aux hommes du lieu, « Où est cette prostituée sacrée qui se tenait à Enaïm sur le chemin ?» Ils répondirent, « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Il retourna auprès de Juda et dit, « Je ne l'ai pas trouvée. » Les hommes du lieu ont même dit, « Il n'y a jamais eu ici de prostituée sacrée. » Juda dit, « Qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. J'ai envoyé ce chevreau, mais toi, tu ne l'as pas trouvé. » Environ 3 mois après, on vint dire à Juda, « Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée. Elle est même enceinte de sa prostitution. » Alors Juda dit, « Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. » Comme on l'amenait dehors, elle envoya dire à son beau-père, « C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'en prie, à qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton. » Juda les reconnut et dit, « Elle est plus juste que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à Shéla, mon fils, et il n'eut plus de relation avec elle. » Quand vint pour elle le temps d'accoucher, il y avait des jumeaux dans son ventre. Pendant l'accouchement, il y en eut un qui se présenta à la main. La sage-femme le saisit, y attacha en fil écarlate en disant, « Celui-ci est sorti le premier. » Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, « Quelle brèche tu t'es ouverte !» Et il appela du nom de Peretz. Ensuite sortit son frère, qui avait à la main le fil écarlate, et il appela du nom de Zéra. Peretz est la brèche et Zéra éclat.
Bonjour. C'est donc dans Genèse au chapitre 38, pour ceux qui se posent la question, mais où se trouve cette histoire ? Merci beaucoup de m'accueillir, c'est un plaisir pour moi de revenir. J'étais là déjà l'été dernier, c'est mon deuxième été, où j'ai la chance de pouvoir célébrer avec vous lors de ces cultes, cette année avec un magnifique thème, « Femme, force de vie », et un texte étrange. L'un de vous d'ailleurs m'a dit en m'accueillant ce matin, j'ai lu ce texte et je me suis demandé, mais qu'est-ce que le pasteur va bien pouvoir nous raconter ? C'est une question légitime. Avec une histoire étrange, au tournant limite sordide par endroits. Une histoire qui fait partie de ces textes de l'Ancien Testament qui peuvent nous mettre un peu mal à l'aise. effectivement, on se dit, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Et on peut être tenté de se dire, bah, c'est encore une de ces vieilles histoires de l'Ancien Testament, mettons-la de côté avec ces autres histoires bizarres et concentrons-nous sur les choses plus pertinentes, par exemple les évangiles avec Jésus. Sauf que Tamar, on la retrouve justement dans les évangiles. On la retrouve même au tout début du premier évangile, celui de Matthieu, qui commence avec un autre type de texte qu'on a tendance à sauter, parce que ça nous ennuie, une généalogie en l'occurrence. Et je vous lis justement ces premiers versets des évangiles, donc Matthieu chapitre 1. « Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar, Pérets et Zéra. » Et ça continue en mentionnant aussi au passage Ruth, dont on a parlé la semaine dernière, ça mentionne Rahab, une autre femme à l'histoire étrange. Puis on passe à David, pour enfin arriver jusqu'à Marie et Joseph, et puis la naissance du Christ. Et c'est une chose très étonnante, pour faire une petite parenthèse sur cette généalogie, de trouver des femmes, ne serait-ce qu'une seule, encore plus de trouver plusieurs femmes mentionnées dans cette généalogie, parce que, après tout, ces histoires d'engendrer, de généalogie, c'est une affaire de mecs à l'époque. Alors non seulement on y met des femmes, mais on y met des femmes aux histoires un peu étranges. C'est donc que cette Tamar, son histoire, elle doit avoir une certaine importance. Tamar qui se retrouve comme ça prise dans l'histoire avec un grand H, une histoire qui la dépasse, qui dépasse aussi certainement tout ce qu'elle pouvait imaginer ou penser de sa situation, qui elle, au final, n'y voyait que ses enjeux et ses difficultés. Loin d'elle de penser que d'elle, de sa descendance, viendrait le roi David et puis le Messie tant attendu. Une histoire au travers de laquelle Dieu est à l'œuvre, même quand les personnages ne sont pas de parfaits exemples de moralité. Ce qui nous aurait quand même arrangé peut-être pour la lecture et la compréhension du texte. On a Judas. Judas, c'est celui qui, dans le chapitre juste avant, fait croire à son père que Joseph est mort. En réalité, il l'a vendu. Je ne sais pas ce qui est mieux. Et puis Tamar, de son côté, qui se retrouve un peu coincée entre manipulation, mensonge, prostitution, un peu difficile d'identifier, de dire « Ah, voilà, c'est telle figure qu'il faut imiter, c'est tel personnage qui est l'exemple à suivre. » Mais c'est une histoire, un récit qui nous apprend premièrement que ce n'est pas en vivant moralement juste que l'on pourrait prétendre être plus proche de Dieu. Et deuxièmement, que Dieu n'abandonne pas son peuple, qu'il est fidèle et qu'il va venir retourner même des situations qui peuvent sembler inextricables et compliquées. Alors revenons un peu à cette histoire. Tamar. Tamar qui est cananéenne, étrangère pour le récit biblique, et qui épouse le fils aîné de Judas, Er. Er qui très rapidement meurt dans le récit. Pourquoi ? On nous dit qu'il était mauvais. On n'en sait pas beaucoup plus. Et ensuite, Tamar devient donc l'épouse du deuxième fils, Onan. Onan, lui aussi, qui meurt assez rapidement. On en sait un petit peu plus. C'est parce qu'il s'est arrangé pour que Tamar ne tombe pas enceinte de lui. Et voilà que Tamar se retrouve deux fois veuve à l'âge, on peut estimer, 15-16 ans, probablement, et qui est dans cette situation, en tout cas dans sa société, dans une situation de vulnérabilité et de faiblesse extrême. Et pour ajouter à ça, certainement qu'aucun autre homme ne voudrait la prendre pour épouse. Elle n'a qu'une seule porte de sortie, ce qu'on appelle le lévirat. Le lévirat, c'était une pratique qui cherchait à, d'une part, protéger les veuves, et puis assurer une descendance au patriarche, aux hommes. Dans une société où, si aujourd'hui c'est l'éducation qui un peu fait en grande partie notre réussite sociale, à l'époque, ce qu'il faut absolument, c'est être marié et avoir une descendance. Alors, on trouve dans la Bible cette loi qui nous dit que si un homme meurt sans descendance, alors son frère doit prendre la veuve pour épouse et donner une descendance, non pas pour lui-même, mais pour le défunt, pour que la famille perdure. Voilà ce qui a été tenté avec Onan, et l'espoir, le seul espoir de Tamar, de finalement ne pas se retrouver une paria de la société avec le dernier fils, Shelah. Et a priori, Judas, eh bien, ils sont prêts à respecter cette pratique. Et il lui dit, écoute, reste chez ton père jusqu'à ce que Shelah, mon fils, soit grand. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il a en tête. Parce que de son point de vue, Judas, il se dit, cette Tamar, elle a épousé mon premier fils et il est mort très rapidement. Puis mon deuxième fils, qui lui aussi est mort très rapidement. Donc en toute logique, si elle épouse mon troisième fils, lui aussi va mourir et disparaître. Et moi, je vais me retrouver sans descendance. Il faut à tout prix qu'il éloigne cette femme de malheur, de son point de vue. Et c'est ce qu'il fait. Et ça semble fonctionner, en tout cas pour un temps. Mais quelques années passent, et Tamar, elle se rend compte, elle se dit quand même, mais depuis le temps, ce dernier fils, il est assez grand. J'aurais dû avoir des nouvelles de Judas pour me dire, écoute, reviens, épouse Shelah. Mais ce n'est pas le cas. Elle comprend alors qu'elle se fait avoir, que Judas a été particulièrement malhonnête envers elle et qu'il n'a aucune intention de lui faire justice. C'est alors qu'une opportunité se présente à elle. Elle apprend que Judas va retrouver ses gardiens de troupeaux pour la tonte, certainement aussi pour la grande fête qui était organisée à l'occasion. Alors, voilà Tamar qui rassemble tout son courage pour entrer en action, pour aller en quête de justice. Ici, il nous faut bien garder en tête la situation de Tamar pour saisir, pour comprendre ce courage dont elle fait preuve pour aller contre toutes les conventions sociales de son époque, de sa société et de sa situation. Elle enlève ses habits de veuve, elle se couvre d'un voile. Elle s'assit au bord du chemin et attend que Judas passe. Judas effectivement arrive, elle la prend pour une prostituée. Il accepte de lui laisser un gage de paiement, un sceau. Ce sceau, c'est le symbole, un objet possédé uniquement par des hommes d'un certain pouvoir, d'une certaine richesse. C'était avec ça qu'on signait un contrat, par exemple, qu'on affirmait qui on était. C'est comme si je laissais mon passeport ou mon portefeuille en gage d'un paiement. Ce qui se passe ici avec Tamar, c'est qu'elle utilise le double standard de la sexualité de son époque. Pour Judas, qui est un homme, en plus un homme de pouvoir, de richesse, un propriétaire, lui, il peut avoir des rapports avec qui il veut, quand il veut, comme il veut. Pas de problème, que ce soit avec sa femme, que ce soit avec une courtisane, il peut. Par contre, quand il apprend que sa belle-fille Tamar a eu le culot de se prostituer et qu'en plus elle est enceinte, alors là, rien ne va plus. Là, il se met dans une colère noire et il ordonne, fais-la sortir et brûle-la. À ce moment-là, Tamar sort son joker. Elle lui dit « reconnais ». Elle lui présente ce sceau et elle lui dit « reconnais ». En hébreu, cela se dit « haker na ». Cette expression, Judas, il la connaît très très bien. Il la connaît très bien parce que juste au chapitre précédent, avec cette histoire du vêtement de son frère Joseph, il l'a présenté à son père et il lui a dit « haker na ». Reconnaît. Cette interpellation de Tamar pour Judas, elle prend une autre dimension. Ce n'est pas juste le mal et l'injustice qu'il a commise envers Tamar qu'il doit reconnaître, mais tout le reste. Il n'est pas juste question de redresser un tort pour Judas, mais de reconnaître que malgré son statut privilégié, que malgré ses grands airs, fondamentalement, il n'est pas un homme juste. Il ne pratique pas la justice. Alors Judas fait cette déclaration fabuleuse, « Elle est plus juste que moi ». Tamar, on l'a dit, elle recherchait la justice, elle l'obtient d'une certaine manière. Dans un moment clé du récit où Judas s'humilie devant elle. Je vous rappelle, c'est un homme de pouvoir qui s'humilie devant une femme étrangère deux fois veuve. C'est pas rien. Un moment clé d'ailleurs qui dépasse tous les clivages qu'on peut avoir dans des débats éthiques, puisqu'il ici les questions d'éthique. Un débat classique verrait s'opposer les défenseurs d'une éthique sexuelle, qui sont un peu des comme Judas, hein, qui dit « Ah, il faut respecter, les femmes ne se prostituent pas, c'est un scandale. » Et puis les défenseurs d'une éthique sociale, comme cette Tamar, qui demande que justice soit faite, que son statut social puisse s'améliorer. Ici, on est complètement dehors de ces divisions-là, bien au-delà. Judas dit « Elle est plus juste que moi ». Et c'est un verset avec lequel certains traducteurs, peut-être que ceux d'entre vous qui ont suivi dans leur Bible, se sont dit « mais ce n'est pas écrit la même chose dans ma Bible ». Parce que ça nous met un peu mal à l'aise de se dire « mais ça implique que Judas est quand même du côté de la justice ». Mais que Tamar est plus juste que lui. Alors certains traducteurs ont remplacé cette phrase de Judas par « elle est moins coupable que moi ». En mettant ce coup-ci l'accent sur le fait que les deux sont quand même un peu coupables, mais que d'une certaine manière, la culpabilité de Tamar est relativisée. Mais ici, pour que Judas vienne faire cette affirmation, elle est plus juste que moi. Le critère qui lui permet d'affirmer ça, c'est le même critère que l'on utilise, ou en tout cas que l'on devrait utiliser dans n'importe quel réflexion éthique qui veut s'ancrer un peu bibliquement, à savoir ce jeu de pouvoir. Ce jeu de pouvoir entre les deux. Tamar est le maillon faible de l'histoire alors que Judas est celui qui détient le pouvoir. La richesse, le privilège, c'est lui qui a tout. C'est lui qui a le pouvoir d'agir envers Tamar avec justice ou injustice alors que Tamar, elle est dans cette situation de subir ce que Judas voudra bien faire. On découvre ici, dans d'autres endroits aussi, mais ici en particulier, comment Dieu prend soin de ceux qui sont en position de faiblesse, d'infériorité, comme les veuves. On le voit au travers d'autres versets dans la Bible qui donnent des instructions spécifiques de comment nous devons prendre soin des veuves. Il y a des personnes en situation de faiblesse dans la société. On le voit avec le Christ, qui passe du temps non pas avec les pharisiens, les défenseurs de la morale, mais avec les pêcheurs, les collecteurs d'impôts, les prostituées. On le voit magnifiquement avec cette femme adultère, à qui il fait grâce en renvoyant à leurs affaires ses accusateurs, et en renvoyant cette femme avec cette parole « Va et ne pêche plus. » Oui, Dieu tient compte de nos réalités, il tient compte de nos privilèges, il tient aussi compte des injustices qui nous atteignent, tout comme il le fait avec Judas, tout comme il le fait avec Tamar. On voit cependant avec Judas à quel point le cœur humain peut être trompeur. Même pour justifier les pires de nos actions, il nous trouve des excuses toutes faites. En fait, je ne faisais qu'obéir. Mais les autres, ils le font aussi, alors pourquoi pas moi? D'autres plus vicieux, c'était par compassion. On m'a forcé de le faire. Ou elle l'a bien cherché. On a alors besoin que Dieu nous envoie des tamars brandir sous notre nez notre sceau, et nous dire « Reconnais ». Est-ce que tu te reconnais? Est-ce que tu reconnais ton injustice? Est-ce que tu reconnais ta haine? Est-ce que tu reconnais ta bien-pensance? Est-ce que tu reconnais ton péché? À ce moment-là, alors, comme Judas, nous pouvons vivre un véritable et profond réveil, réveil spirituel, et dire la justice est en dehors de moi, elle est plus juste que moi, je suis coupable. Il nous faut contempler, je crois, tout ce que Tamar a traversé, tout ce qui a été vécu dans ce texte, pour qu'une descendance soit assurée à Abraham. Et pas n'importe quelle descendance, puisque de cette descendance-là sort le roi David. Et toujours de cette descendance-là vient le Messie. Tout cela pour que la grâce de Dieu puisse prendre forme humaine, puisse être manifestée concrètement, réellement, au milieu de nous, en Jésus-Christ. Alors ce matin, peut-être que nous sommes dans des situations un peu comme Judas. Soit Judas au début du récit, avec des grands airs, à se dire « Moi j'ai raison, moi je suis moralement juste et pas les autres. » Peut-être que nous sommes comme des Judas à la fin du récit, accablés par le poids de nos fautes. Peut-être que nous sommes comme des Tamar, acculés par toutes les injustices de la vie, par tout ce que nous avons dû et nous subissons encore aujourd'hui, à nous dire « Mais quelle est ma porte de sortie ?» Et au milieu de tout ça, Dieu opère une percée, comme cet enfant, Peretz, la percée, pour que nous puissions être des véhicules du Christ, pour qu'à travers nos vies, malgré tout, le Christ puisse être manifesté concrètement, physiquement, aujourd'hui, dans ce monde. Amen.
Nous allons avoir un moment de prière communautaire où chacun peut s'exprimer, répondre à Dieu par rapport à ce que nous avons entendu. Et puis Sylvain clôturera ce moment par un chant.
aide-nous à entrer aussi dans ce temps de partage et de communauté. Amen.
Dans le partage du pain et du vin, c'est la grâce de Dieu qui se manifeste, qui est Dieu qui en Jésus-Christ nous dit oui, tu es pécheur, mais tes fautes sont pardonnées et je te justifie, je te proclame juste. Prions. Seigneur, quelle joie de te louer. En ton Fils Jésus-Christ, tu as créé toutes choses pour le bonheur et pour la vie. Par ton Fils, tu veux sauver chacun et la création tout entière de tous les esclavages. Ainsi, tu veux que chacun puisse te servir avec joie. Loué sois-tu. Alléluia.
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même aussi, après avoir soupé, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain, et que vous buvez de cette coupe, vous rappelez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Notre Dieu, nous nous souvenons de Jésus-Christ. Il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous. Nous nous réjouissons de sa résurrection. Elle nous donne l'assurance de sa présence auprès de nous tous les jours, et en particulier à cette table où il nous invite. Nous attendons le jour où son règne sera établi sur l'univers tout entier. Envoie sur nous ton esprit, afin que nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils, et qu'ainsi, unis à lui, nous puissions être porteurs de ta paix, de ta lumière et de ton espérance. Et unis dans un même esprit, enfants d'un même Père, nous pouvons te dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Venez car tout est prêt, ou plutôt restez où vous êtes car les éléments vous seront apportés.
Merci, Seigneur Jésus, d'être la lumière du monde.
Celui qui te suit ne marchera pas dans la nuit.
Merci, Seigneur Jésus, d'être le cep.
Fais que nous demeurions attachés à toi et que nous portions beaucoup de fruits.
Merci, Seigneur Jésus, d'être le pain de vie.
Et de combler notre faim et notre soif de toi. Amen. Nous allons passer aux annonces. Est-ce qu'il y a des annonces à faire? Donc dimanche prochain, c'est où c'est pomme. Et dans la semaine, rien de spécial. Du coup, je vous propose de passer à l'offrande que nous ferons pendant un chant.
L'apôtre dit « Soyez joyeux dans l'espérance, patient dans l'affliction, persévérant dans la peine. » Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen.